Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième d'Un œil ailleurs, une émission mensuelle d'actualité internationale subjective, mais néanmoins vérifiée, grâce à la perspicacité à présent légendaire de ma camarade Alice. Bonjour.
Bonjour.
Une émission saupoudrée de sons et de musique de l'univers et au-delà, grâce à mon camarade Jérémy à la technique. Salut Jérémy.
Salut.
Alors après ton petit tour subjectif de la planète, Alice, on partira en Irak avec notre invité du mois. Bonjour Milat.
Bonjour à tout le monde.
Et bienvenue. Alors, bien sûr, pour terminer l'émission, on retrouvera notre chronique musicale qui vous fera découvrir un chef d'orchestre irako-égyptien, pas comme les autres. Mais pour l'heure, c'est le petit tour subjectif de la planète.
Maurice, on a l'antenne. On est à l'antenne.
Quelle heure il est ?
C'est l'heure de nous informer. En image, la semaine. Maurice.
Oh putain, je sais pas vous, moi. Il n'y a plus la guerre, moi je suis démobilisé.
Pour notre petit tour de la planète totalement subjectif, nous commençons par faire un tour en Afrique. Enfin non, plutôt en Suisse. Enfin les deux, parce que nul n'est sans savoir que l'Afrique reste le terrain de jeu favori des Occidentaux. Et cette fois, on parle cigarettes.
Je connais des gens qui sont très exigeants et qui dépensent beaucoup d'argent pour les cigarettes des pays égyptiens, anglais, belges ou américains. Pour mon estomac, je ne prends que du tabac de la régie française ou de l'État. Week-end, week-end, quel parfum et quel doux nom charmant. Week-end, week-end, on peut les fumer béatement. Week-end, week-end, pour l'esprit c'est un délassement. J'adore leur forme fine, fine, sur fine, divine. Et je ne fume, ça se devine.
Et oui, figurez-vous que les cigarettes fabriquées en Suisse à destination du marché africain sont plus toxiques que celles destinées au marché européen. C'est ce qu'a découvert une journaliste française, Marie Maurice, lors d'une enquête au long cours qui lui a valu le prix d'investigation de l'ONG suisse Public Eye. Alors quoi, la Suisse fabrique des cigarettes, vous demandez-vous les yeux écarquillés. Disons que la Suisse héberge quelques géants du tabac comme Philip Morris International, c'est-à-dire les marques Chesterfield, Marlboro et compagnie, British American Tobacco, soit Pall Mall, Dunhill ou Lucky Strike, et Japan Tobacco International qui distribue notamment Winston et Camel. Et tout ce petit monde produit des cigarettes à deux vitesses, des moins mauvaises pour les Européens et des très mauvaises pour les Africains. Pourquoi ? Pas de réponse. En revanche, comment c'est possible ? Grâce à une législation suisse particulièrement favorable concernant le contenu des cigarettes et l'analyse des produits exportés. En gros, en Suisse, on met ce qu'on veut, sauf deux produits, le sucralose et le sel d'aspartame. Pour le reste, c'est open bar. Et même si les cantons sont censés contrôler le bazar, ça n'arrive jamais. Et comme de l'autre côté de la Méditerranée, hormis le Burkina Faso, personne ne vérifie quoi que ce soit, pourquoi se gêner ? D'autant que le tabac en Suisse, c'est 1% du PIB, 0,2% de la population active, des retombées fiscales très confortables, mais secrètes, on est en Suisse, et un paquet de lobbyistes très bien intentionnés au Parlement.
Eh bien, on part maintenant au Brésil, où la vie sous Jair Bolsonaro est un vrai paradis, surtout pour les homosexuels.
Eh oui, même quand on est député, on craint pour sa vie si on est homosexuel au Brésil. À force de menaces, le député de Rio de Janeiro, Jean Willis, je ne sais pas comment on prononce, a choisi l'exil. À 44 ans, il devait commencer son troisième mandat le 1er février, mais il a préféré démissionner. C'est pourtant grâce à lui que les droits des minorités sexuelles ont progressé, comme le mariage civil entre personnes du même sexe ou la retraite après 25 ans de travail pour les prostituées. Surtout, Jean Willis a permis de débattre de questions taboues autour du sida, des difficultés des transsexuels ou des violences envers les femmes. Mais trop c'est trop. Sous protection policière, le député a décidé de rester à l'étranger pendant les 4 prochaines années. Il faut le dire que le ton avait été donné dès la campagne présidentielle. Il y avait eu quand même 4 morts LGBT. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon courage ou bonne chance. C'est selon à son suppléant David Miranda, lui-même militant de la cause LGBT.
Eh bien, on ne craint pas les allers-retours ce soir. Allons que retour en Europe.
Ouais, c'est très moyen pour notre bilan carbone. Mais bon, que voulez-vous, hein, l'actualité n'a pas de prix, surtout environnementale. Alors, on s'intéresse à deux petits pays qui font rarement l'actualité, d'ailleurs, l'Albanie et le Kosovo. Parce que ces deux-là sont en train d'abolir leurs frontières communes. C'est officiel, en mars, il n'y en aura plus. Le rapprochement n'est pas nouveau, hein, puisque les deux présidents discutent depuis un moment déjà du système éducatif, de politique étrangère et de marché commun. Et même d'un président unique, hein, ce qui n'est pas rien. Bref, il se pourrait bien que le Kosovo se fonde dans l'Albanie d'ici peu, car ce qui se profile, d'après les observateurs et spécialistes, c'est la création ou le retour d'une grande Albanie qui réunirait tous les Albanais du secteur, ce qui commence à faire grincer des dents du côté de la Macédoine, justement, où les nationalistes n'apprécient qu'assez peu la montée politique des Albanais, et en Serbie, parce que le rêve de la Grande Albanie, c'est d'intégrer tous les territoires où vivent les Albanais, à savoir la Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et une partie de la Serbie.
Et on termine notre petit tour en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Algérie.
Eh oui, et là c'est une petite polémique qui agite le milieu algérois. Pour rénover son centre historique, Alger n'a rien trouvé de mieux à faire que de signer mi-décembre un partenariat avec la région Île-de-France et les ateliers Jean Nouvel. Forcément, ça a provoqué quelques crises d'urticaire en Algérie. Dans Télérama, l'architecte algérien Mohamed Larbi Meroum résume la situation, je cite « On peut s'étonner que l'on confie un chantier historiquement, culturellement et sociologiquement aussi symbolique à un représentant de l'ex-puissance coloniale. » Fin de citation. Oui, on peut s'en étonner, en effet, d'autant que l'architecte rappelle que la France a déjà saccagé trois fois la Casbah d'Alger, en 1830, en 1930 et en 1957. Surtout, pour Mohamed Larbi Meroum, aller chercher les Français pour un tel chantier, c'est revendiquer une forme d'incompétence et jeter leur inutilité au visage des générations postcoloniales.
Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi j'ai toujours le cœur gris et je continue à faire lutter, d'attendre ta faire les temps, t'es tout dans 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 les temps. On se plaît à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à mon pain sec. Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a ben moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. Ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi j'ai toujours le cœur gris et je continue à faire lutter. T'as tout dans les temps, 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 t'as tout dans les temps. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, pour pas que ça monte à la grossie, je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger, je laisse ta mort à tatiner, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi je te joue le cœur gris, et je continue à faire lutter, de tante tilly tante tom, tiddly tante tom, darom tilly diddlom, darom tilly diddlom. Me voilà mal à manger, j'ai des trous d'amis suyés. Mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la double tout décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas nawaire. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur dit, et je continue à faire lutter. T'es tant, 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 t'es tant. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger, ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'essaie vite de casser, ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas payée, y'ont pas besoin de m'achaler, ma liste à prendre de l'escalier, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi je te joue le cœur dit, et je continue à faire lutter, tirant petit tirli, tant et tout dans le tille, tirli, tout petit tirli, tant et tout petit tirli, tirli,
Et ben voilà, c'était la Bolduc. Alors avec un titre, ça va venir, découragez-vous pas. Voilà. Ceci étant dit, La Bolduc, je vous invite à écouter ses autres titres, notamment celle-ci, c'est un tube carrément international. Hein. Elle vient du Québec, hein, cette dame. Enfin bon, feu La Bolduc. Hein. C'est les années 20 à peu près. Voilà. Bon, voilà. Donc ça s'appelle Si les saucisses pouvaient voler, je crois, hein, ou parler. Enfin,
ah,
un des deux.
Je le veux pour une prochaine émission, voilà. Celui-là.
Donc si vous avez une folle soirée en perspective, La Bolduc. Bon, Alice, je te passe tout de suite la parole pour la partie interview avec
Milat.
Voilà.
Et on va parler Irak, mais avant, messieurs, dames, histoire de voir si vous êtes prêts à aborder le sujet, on va lancer notre petit quiz. Allez hop, c'est parti. Si tu lances le bip avant que j'ai posé ma question. D'abord, on pose la question et puis après, on lance le petit vibraphone. Alors, citez deux ressources. Le métallophone, pardon. Citez deux ressources naturelles de l'Irak.
Le pétrole.
Ouais, bien.
Et je dirais le cuivre.
Ah, alors peut-être le cuivre, mais moi je pensais à une autre. Milan.
En fait, l'agriculture, généralement, le dattier, palmier.
Ah, d'accord. Ouais. Et en ressources naturelles, pétrole et gaz.
Exactement.
Ouais, c'est ça, c'est les deux, vraiment les deux grandes ressources.
Ressources naturelles,
ouais,
le
c'est
pétrole
ça.
Et le gaz.
Et le gaz.
C'est ça.
Deuxième question, bon, elle est facile celle-ci. Quelle est la capitale de l'Irak?
Bagdad.
Voilà, bon, je me suis dit, il en faut une facile. Troisième question, quels sont les deux fleuves qui traversent l'Irak?
Le Euphrate.
Voilà. Voilà, alors ça je le savais.
Ouais. Le Tigre et l'Euphrate. Et dernière question, c'est pareil, une facile, comment s'appelait l'Irak il y a très 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 longtemps?
Mésopotamie.
Voilà. C'était la Mésopotamie.
Ah ouais, mais l'invité, il répond avant moi. Alors.
Bon, mais t'es à peine au point, Véro, mais c'est pas grave. Justement, on est là pour remettre les pendules à l'heure. Parce que, voilà, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai grandi au rythme de deux conflits. Quand j'étais petite et que je regardais le journal télévisé avec mes parents, l'actualité se divisait en deux. D'un côté, la guerre du Liban, et de l'autre, celle entre l'Iran et l'Irak. Voilà comment j'ai découvert l'Irak, un pays en guerre. Un jour, en 1988, sans que personne n'ait gagné ni perdu, la guerre s'est arrêtée. Mais deux ans plus tard, peut-être parce qu'il s'ennuyait, le type à grosse moustache, Saddam Hussein, qu'il s'appelait, il a décidé d'envahir le petit voisin, le Koweït. Sauf que les Américains et les Occidentaux, en général, ont réagi. L'opération, elle s'appelait « Tempête du désert ». Ce que j'en garde en tête, une vision de cauchemar, avec des puits de pétrole qui brûlent, des incendies à n'en plus finir. Mais bon, Saddam a fait machine arrière, enfin bon, il n'a pas eu le choix. 12 ans plus tard, c'était reparti. Cette fois, un certain George Bush avait décrété que l'Irak, le grand méchant, abritait des armes chimiques. Or, il faut savoir que c'est interdit. En 2003, c'était reparti, bras dessus, bras dessous, les Ricains et les Britanniques allaient cogner en Irak. La coalition en a profité pour faire tomber Saddam Hussein et son parti Baas au pouvoir depuis 1979. Les Irakiens ont élu pour la première fois leur président en 2005. Les Américains avaient débarrassé le peuple de son tyran, ils pouvaient repartir. En 2011, ils ont donc fait place nette. Enfin presque. C'était sans compter sur l'État islamique qui avait profité du chaos pour se faire une place au soleil dans le nord-est du pays, à la frontière turco-syrienne. En 2015, Daesh était descendu jusqu'aux deux tiers du pays, vlant 4 ans de guerre civile, 200 charniers, 4 millions de réfugiés et 88 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction du pays. L'Irak avant, c'était la Mésopotamie, un nom qui fleure la culture, le soleil, la Méditerranée, l'invention de l'écriture. Irak, ça signifie « basse terre ». Parfois, le pays est aussi surnommé le « pays des fleuves », en référence donc au Tigre et à l'Euphrate. Quand j'entends ces noms, je peine un peu à faire le lien avec l'image que j'ai en tête. La guerre, l'oppression, le feu, la fuite, un type à moustache en uniforme militaire. Je ne sais pas à quoi ressemble l'Irak, mais ça ne peut pas n'être que ça. Alors pour comprendre un peu ce pays si loin de nous, nous avons avec nous aujourd'hui Milad, irakien. Milad a 29 ans, il est en France depuis 2 ans. Alors on n'a qu'une demi-heure pour faire le tour du pays, donc on ne va pas perdre une minute. Bonjour Milad et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous aussi.
Je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir un invité irakien parce que c'est un pays qui reste vraiment pour moi très, très mystérieux. Et moi, avant tout, je voudrais savoir, est-ce que cette présentation un peu apocalyptique que j'ai, est-ce que c'est que ma vision d'occidental ou est-ce que ça correspond à une forme de réalité?
En fait, je pourrais dire une définition en bref. De l'Irak est un pays dont son passé est toujours mieux que son présent, en espérant que ça changera un jour.
D'accord.
L'histoire de ce pays est très connue comme un champ de bataille. Et en même temps très riche culturel et très connu mondialement par rapport à la littérature les sciences de base les universités, l'éducation. Aussi la générosité de
ses habitants.
Ses habitants, exactement. Je peux dire que l'histoire de ce pays commence profondément au milieu des massives montagnes. Où deux grands fleuves prennent leur source sur le haut plateau qui s'appelle en arménien Hakakan Lernashkar. Un fleuve s'appelle l'Euphrate et l'autre le Tigre. Au milieu de ces fleuves, il y a une région historique que nous, sous le nom de Mésopotamie.
D'accord. Et qui porte toujours aujourd'hui ce nom-là, Mésopotamie.
Exactement. Du grec, originaire du grec Mésopotamie. Méso, ça veut dire entre, potamos, c'est-à-dire fleuve.
Ah,
donc entre les deux fleuves. C'est ça. Et Mésopotamie correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel.
D'accord.
D'accord, ouais.
Et alors justement, puisqu'on parle géographie, moi j'aimerais bien avoir des visions, parce que vraiment, les visions que j'ai de l'Irak, c'est des puits de pétrole en feu, et je voudrais bien avoir une autre vision. Ça ressemble à quoi l'Irak? Donc il y a ce plateau historique qui est plutôt dans le nord du pays, c'est bien ça?
En fait, le haut plateau, c'est divisé en cinq pays. C'est la Turquie, l'Iran, Géorgie, aussi l'Arménie. Mm-hmm. L'Arménie.
D'accord, l'Arménie, la Géorgie.
C'est la source de ces fleuves.
D'accord.
La plupart de l'histoire du Tigre et de l'Euphrate est précisément en Irak. En Irak, et par exemple, la première ville historiquement dans le monde était en Irak, qui s'appelle Uruk, Al-Warqa.
Qui a toujours ce nom aujourd'hui?
Oui, il y a une ziggourat. Ziggourat, c'est comme les pyramides en Égypte.
D'accord.
Okay. Généralement la même idée pyramidale aussi, mais en Irak, en Mésopotamie, ça s'appelle ziggourat.
D'accord.
Ziggourat. Oui. Par exemple, les Sumériennes étaient à créer l'écriture,
tout à fait.
Et aussi la musique, la harpe sumérienne est très connue. Après les Sumériennes, les Acadiennes, ensuite les Babyloniennes, les Assyriennes.
C'est un réseau de nombreuses civilisations, en fait, qui ont marqué le monde.
C'est ça, ça, exactement, exactement. Par rapport à tout ça, on a un pays multiculturel.
Ouais. Mais alors, justement, on va revenir là-dessus, mais... donc moi j'entends au plateau, donc ça ressemble à quoi l'Irak? C'est des montagnes, c'est du désert, il fait froid, il fait chaud,
ouais.
Voilà, quelles sont des images, je ne sais pas, c'est des montagnes rases, ouais. Des montagnes boisées
Au nord d'Irak, il y a des chaînes de montagnes. La nature, on pourrait dire, est très variée, car on continue vers le sud, on va trouver la nature désertique, mais avec les deux fleuves...
qui irriguent, en fait, le pays.
C'est ça. L'agriculture a été très connue, mais jusqu'en 2003, à cause de la situation, beaucoup de choses ont été changées. Mais généralement, on pourrait dire les fermes de palmiers, c'est juste à côté du Tigre, de l'Euphrate, toujours. Mais c'est pas seulement nature désertique, non. Il y a la vie sauvage, des animaux particuliers. Par exemple, au sud d'Irak, il y a les marais de Mésopotamie.
D'accord, les marais.
C'est comme une place de rencontre des oiseaux migrants.
D'accord.
Qui migrent
pour l'hiver et qui descendent ici.
C'est ça. Et donc, de plus, on a plus de 20 000 sites archéologiques.
D'accord.
C'est comme un musée naturel.
D'accord.
Une grande partie a été détruite à cause de plusieurs guerres.
C'est ce que j'allais demander, voilà.
Mais spécialement après 2003.
Jusqu'en 2003, sur les premiers conflits,
le conflit
avec l'Iran n'avait pas touché...
Non. Un petit peu. Il y avait beaucoup de guerres, si on retourne...
En arrière, dans le passé.
Oui, mais après 2003, c'est terrible, c'est vraiment terrible.
Qu'est-ce qui explique qu'après 2003, les frappes ont été plus ciblées? Pourquoi la guerre, l'intervention occidentale a détruit le pays?
Je crois que les gens en Irak étaient trop fatigués à cause de plusieurs guerres, à cause de la dictature de Saddam Hussein. Et quand les Américains sont arrivés en Irak, on a cru que c'est la chance,
la solution. Au départ, c'était une intervention bienvenue.
Oui. Les Américains sont bienvenus à Bagdad et vous pourriez par exemple vérifier ça sur plusieurs vidéos, car on avait besoin de la liberté, liberté et de l'égalité. De vivre plus dans le pas, mais mon avis les Américains a joué un rôle important pour détruire une histoire complète.
C'est ça, parce que nous, vu de l'Occident, donc c'était quand même une intervention qui était très très disputée, la France était contre. Au final, il a été prouvé qu'il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak et qu'il y avait certainement des intérêts financiers pour intervenir. Vous l'avez vécu comment ça? Est-ce qu'au départ, les Américains étaient bienvenus? Est-ce qu'au bout d'un moment, la population s'est rendue compte que ça ne collait pas, que l'intervention n'était pas pour la bonne raison?
Au début, les peuples étaient très heureux. Mm-hmm. Les Américains sont bienvenus avec des fleurs. Avec
d'accord,
des fleurs,
d'accord. Un peu comme les libérateurs quand ils sont arrivés en Europe en 45.
C'est ça, mais la vérité, ils ont menti, je pourrais dire, ils ont menti. Jusqu'à maintenant, nous vivons la conséquence.
Et voilà. Et alors, c'est quoi les conséquences? Donc, vous avez quand même un président de la République.
Oui, c'est ça.
Comment va le pays aujourd'hui?
Le pays est vraiment divisé. Car les Kurdes au nord d'Irak veulent leur indépendance. Mm-hmm. Ils vont faire n'importe quoi pour cette raison.
N'importe quoi, c'est-à-dire des attentats, par exemple, ou c'est...
Je ne peux pas répondre à cette question, mais n'importe quoi, généralement, pour contre le gouvernemental central à Bagdad.
J'ai été surprise, je fais une petite parenthèse, d'apprendre qu'en fait, le gouvernement est de... Et on parlait de multiculturalisme et multiculturel, je crois que le président est kurde. C'est ça, le premier
ministre. Le président
ministre
de la République kurde, le premier ministre, est chiite, et le président du parlement irakien est sunnite. Comme ça, c'est cinq élections. On a eu cinq élections. Et cinq élections, toujours la même idée. Donc, la base est plus sec que.
C'est-à-dire, il y a eu des élections, quand il y a eu plusieurs élections, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections présidentielles, il y a eu les élections du Parlement, c'est ça?
Oui, mais c'est comme ça. La population, les organisations chiites toujours gagnent dans les élections.
Oui, parce que c'est un pays majoritairement chiite.
Majoritairement, 60% de la population irakienne sont chiites. La religion affecte le peuple vraiment. Donc, ils gagnent les chiites.
D'accord.
Ils sont plus forts que les autres.
D'accord.
Ça veut dire que les sunnites et que les Kurdes. Donc, il y a comme une guerre civile entre les sunnites et chiites. C'est une guerre mondiale, pourrait dire.
Oui, bien sûr, parce que c'est le problème un peu dans tout le Moyen-Orient.
Oui, et ça fait 1400 ans que les chiites et les sunnites s'opposent.
Pour une question de prophète, quand même.
Oui, et donc, de plus, il y a les oppositions entre les Arabes et les Kurdes. Donc, on pourrait dire au nord, il y a les Kurdes, au milieu les sunnites et au sud les chiites.
Ah, les chiites sont plus au sud.
Plus au sud. Et Bagdad est comme un mélange.
D'accord. Ouais. Multiculturel. Et on vit.
Jusque maintenant.
On vit, on arrive à vivre en bonne intelligence. Tout le monde, tout ce petit monde-là vit bien à Bagdad. On peut avoir un voisin chiite, un voisin kurde, un voisin chrétien, il n'y a pas de...
Car Bagdad a été nommé plusieurs fois à partir de 2003, malheureusement, la plus dangereuse dans le monde, la plus sale ville dans le monde. Par exemple, si on retourne arrière un petit peu, le nom de Bagdad est originaire de Bjdad, c'est un nom babylonien qui ça veut dire la forêt de la mort. Ok, donc Bagdad était connu avec ses fermes de palmiers et de dattiers. Mais l'Irak aussi était le premier producteur mondial de dattes. Et aussi la Bagdad était connue comme la maison de la paix durant le calife abbasite était le capital du monde musulman. Bagdad était connue comme la maison de la sagesse grâce au grand nombre de philosophes, d'écrivains, poètes, scientifiques, etc. Mais maintenant, si on compare tout ça avec notre présent, c'est comme une chose paradoxale.
Ouais, d'accord, par rapport au passé et oui, à la situation d'aujourd'hui.
Du monde.
Alors, on est sur Studio Zef avec Milad, irakien, et on découvre ce pays, donc l'ancienne Mésopotamie. Milad, justement, moi j'ai aussi appris que le pays était laïque sous Saddam Hussein, que la chute de Saddam Hussein, parce que tu as dit tout à l'heure que du coup la religion était très présente, c'était pas le cas sous le régime de Saddam Hussein. Ouais. Est-ce que c'est l'autorité, un petit peu comme en Yougoslavie, est-ce que c'était un tyran qui empêchait les problèmes de religion et que ces derniers ont surgi quand il est tombé?
Le problème, je crois, est un petit peu bizarre, car l'histoire moderne d'Irak, à partir du mandat britannique jusqu'à maintenant, ça a été commencé avec un royaume, mm-hmm. la famille Hachimite ou Al-A'il al-Hachimiyye en Jordanie et en Irak. Et après ça, les communistes ont contrôlé le pays. Après ça, le Ba'ath Party.
C'est donc un parti chiite, hein, le parti de Saddam Hussein, c'est
le
bien ça?
Le parti de Saddam Hussein. A contrôlé le pouvoir en Irak avec l'idée d'un grand pays arabe. Jusqu'à 1979, Saddam Hussein a tué beaucoup de personnages très forts et importants dans le gouvernement de Ba'ath, de sa partie, pour obtenir le pouvoir. D'accord. Et il a réussi.
Il a éliminé tout le monde jusqu'à ce qu'il reste plus que lui.
C'est ça, il a éliminé tout le monde. Il a réussi. Et directement, il a commencé la guerre contre l'Iran pendant 8 ans. Vous avez expliqué un petit peu sur.
Au final, il n'y avait même pas de gagnant. Hein, c'est-à-dire que tout le monde a perdu dans l'histoire.
Oui. Et donc, après 2003, c'est l'époque religieuse.
D'accord.
Oui.
Paradoxalement, en fait, les Américains viennent vous libérer, vous récupérez la religion, en fait.
C'est ça. C'est l'époque religieuse.
Qui se traduit comment? Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour les Irakiens?
Pour les Irakiens, c'est la même chose, car il n'y a pas de liberté Et donc ça change que notre pays a totalement détruit. Et ça change que notre pays a contrôlé par des gangsters.
D'accord.
Ok. Qui sont bien construits depuis 2003 jusqu'à maintenant. Il y a des politiciens, bien politiciens, mais ils peuvent rien faire. Car c'est comme mafia.
Ouais.
Et donc,
il y a des pouvoirs financiers qui influent.
Oui, mm-hmm. oui, c'est ça.
Et alors, du coup, concrètement, la vie aujourd'hui, c'est un peu au plus fort la poche. Il n'y a pas vraiment de gouvernement, en fait. C'est des milices qui protègent.
Non, il y a un gouvernement, mais il y a une corruption à cause de ces gangsters.
En fait, ça a été le chaos. Comme vous dites, les gangsters sont arrivés.
Ouais.
Et par rapport à, parce que le chaos a donc fait surgir un petit peu toutes ces mafias, mais a fait surgir l'État islamique, qui a profité aussi de la situation certainement pour s'implanter. Alors, sauf erreur de ma part, les partisans de l'État islamique de Daesh sont plutôt des sunnites, c'est bien ça, donc s'opposent.
Ouais.
Aux chiites.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que donc ils se sont implantés dans le nord du pays, jusqu'à assez bas quand même. Est-ce que vous avez, enfin toi Milad, t'as vécu ça, cette arrivée ?
Oui, bien sûr. En fait, j'ai fait mes études à Erbil, à l'université d'Erbil.
Donc au Kurdistan irakien dans le nord du pays.
Irakien, mais mes parents vivaient près de Mossoul, dans une plaine de Nineveh, Mossoul.
Mossoul, ouais, parce que c'est la ville qui a été détruite.
Détruite, était le capitale du califat
de l'État
islamique. Exactement. Et nous, pour nous, nous sommes des minorités.
Que vous êtes de minorité, c'est-à-dire de quelle confession vous êtes
Aramien.
Ah, d'accord.
Oui. Aussi, il y a deux autres parties comme plus proches de nous, c'est les Assyriens et les Chaldéens. Généralement, les sunnites qui étaient trop forts pendant le gouvernement de Saddam Hussein a été vraiment maltraité après 2003. Et donc, la plupart de ces sunnites avec l'État islamique.
C'est la situation d'un chaos, finalement, où des gens opprimés
profitent
du chaos. C'est un peu ce qui se passe en Libye, pour reprendre le pouvoir, mais du coup, par des méthodes...
Par des méthodes avec beaucoup d'oppression. De violence. En violence. Donc, on a perdu cette plaine. C'était la dernière région pour nous.
C'est la région où vous êtes plutôt implanté, donc plutôt le nord.
C'est comme entre Mossoul et Erbil. Mais ça correspond à Mossoul.
D'accord.
Officiellement.
À la région de Mossoul.
Oui, c'est ça.
Et alors, du coup, vous qui étiez étudiant à ce moment-là au Kurdistan, votre vie a radicalement changé avec l'arrivée de Daesh ou vous avez... Comment ça s'est passé?
J'ai fini mes études et aussi j'ai travaillé au cabinet dentaire, j'ai travaillé...
Est-ce que tu es dentiste?
Dentiste, je suis dentiste, c'est ça. Aux hôpitaux, dans des centres spécialistes. Avant Daesh, un petit peu, j'ai travaillé près de plaine de Ninive, mm-hmm. Dans un village qui s'appelle Tobzawa. Mm-hmm. Et donc, le jour quand Daesh ou l'État islamique était proche d'entrer Erbil, j'étais là. J'étais là et j'ai découvert ça rapidement. Et j'ai appelé mes amis, ma famille. On a quitté cette région vers Erbil, mm-hmm.
Kurdistan
irakien. Mm-hmm. C'est ça.
Et ouais. Parce que l'État Daesh n'est pas implanté au Kurdistan, les Kurdes ont suffisamment résisté. C'est bien ça?
Oui. Bien protégé par les Américains.
L'aviation internationale.
Exactement.
Et alors justement, parce que le Kurdistan est autonome depuis les années 2000, c'est ça
2000, non. En fait, depuis 1991.
Ah d'accord, oui. Ça remonte à 1991. Et oui. Qu'est-ce que ça signifie alors concrètement que le Kurdistan, comment ça se passe la cohabitation de ce Kurdistan? Parce que c'est le seul, il faut savoir quand même que les Kurdes sont à cheval sur l'Iran, la Turquie et, ouais. et l'Irak.
Quatre parties.
Et la quatrième, la Syrie.
Syrie, voilà. Syrie, exactement.
Et il n'y a qu'en Irak qui bénéficie d'un territoire autonome.
Oui, c'est ça.
Alors, comment ça se passe avec le gouvernement irakien, du coup?
Toujours il y a des conflits entre eux, car les organisations politiques au Kurdistan veulent l'indépendance.
L'indépendance totale, en fait.
Totale d'Irak. Mm-hmm. Bagdad, ou le gouvernement central, refuse. Et donc, il y a toujours des conflits.
Mais du coup, c'est des affrontements politiques ou armés qui
armée, on ne pourrait pas dire armée, mais économique. Plus économique. Par exemple, à cause du référendum, de l'indépendance, mm-hmm. l'année dernière, il y avait vraiment une crise économique au Kurdistan irakien. Les frontières étaient fermées par les Turcs, par les Iraniens, et aussi par le gouvernement central. Les salariés ne reçoivent pas
leur
salaire. Donc, ça change aussi comme une crise sociale.
C'est une pression économique, en fait, que le gouvernement central met sur le Kurdistan. Parce qu'il y a des richesses. Parce que donc, vous disiez, les plaines du Tigre et de l'Euphrate sont très riches pour l'agriculture.
Oui.
Il y a mais les gisements de pétrole doivent plutôt être au sud, j'imagine.
Au sud de Basra. Basra.
En frontière du Koweït, en fait.
En frontière du Koweït.
C'est ça. Il y a des gros gisements de gaz, mais...
Le pétrole
et le gaz, c'est plutôt le sud. Et du coup, il y a des richesses au nord ou pas? Le Kurdistan a quoi?
Oui, mais le problème, ils n'ont pas un accès à la mer.
Ils sont enclavés dans les montagnes.
C'est fermé. C'est fermé entre au milieu Iran-Turquie.
Et c'est une zone très montagneuse dans laquelle on ne circule pas beaucoup.
Ils ne peuvent pas emporter le pétrole. Et donc, ils ont essayé d'arriver à la mer à travers Syrie. Mm-hmm. Mais Ça ne marchait pas car les Turcs sont officiellement en Syrie.
Ouais.
En Syrie
ils ont fait pression.
C'est ça. Donc, je pourrais dire la rêve du Kurde a été...
Il se limite. C'est-à-dire
qu'ils
ont un territoire, mais en fait, économiquement, c'est très compliqué d'imaginer une vie économique viable. Quoi.
Mais généralement, on pourrait dire le gouvernement au Kurdistan est plus ouvert, car ce n'est pas un gouvernemental religieux.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de pression religieuse, c'est plutôt démocratique.
Plus démocratique, mais il y a de la corruption quand même aussi. Mais c'est mieux la situation, la sécurité généralement.
La place des femmes.
Des femmes, oui, bien sûr.
On parle beaucoup des femmes combattantes kurdes.
Oui.
En Irak, il y a une différence entre la place des femmes en Irak et au Kurdistan?
Au Kurdistan, la place de femmes est mieux que l'Irak, mais à Bagdad est aussi mieux que les autres
régions.
Car Bagdad
c'est peut-être une ville plus internationale.
Internationale, multiculturelle. Mm. Et par exemple, il y a une région qui s'appelle Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi, c'est une région de rencontre de les jeunes plus cultivés. Il y a bibliothèque.
Les intellectuels.
Vous pourriez trouver des livres intéressants et tout ça, plus ouvert. Donc, à Bagdad, ils ne peuvent pas contrôler les jeunes à Bagdad.
On peut sortir facilement à Bagdad, on peut se mélanger entre hommes et femmes, aller boire un verre. L'alcool est interdit en Irak?
L'alcool est interdit seulement autre ville, mais à Bagdad, non, c'est
d'accord.
Pas interdit. Au Kurdistan, c'est pas interdit, mais l'autre ville.
Les régions plus rurales.
C'est ça. Car les gens sont comme les résultats de plusieurs guerres, de plus en plus pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Et donc, la religion peut... je ne peux pas dire la religion ou préciser la religion, non. Mais les personnes responsables qui dirigent la religion en Irak ont bien contrôlé la plupart
des gens. Parce que c'est plus facile de contrôler des personnes qui sont dans un état de pauvreté, j'imagine qu'elles sont aidées sur le plan social.
C'est
le principe un peu des frères musulmans.
Oui, c'est ça.
Le temps passe.
Oui.
Une petite dernière question.
Petite dernière. Alice. Ouais, juste par rapport à toi, Milad. Donc, quand est-ce que tu as quitté l'Irak parce que tu as quitté les conflits, l'État islamique? Est-ce que ça a été la raison de ta fuite en Europe?
J'avais envie, quand j'étais petit, de quitter l'Irak car il n'y avait pas de liberté. Et pour cette raison, précisément, j'ai quitté l'Irak. Car je vivais toute ma vie dans une situation dangereuse. Donc, j'ai l'habitude de vivre comme ça. J'ai changé la je suis né à Bagdad, j'ai changé la ville 3 fois, Mossoul, après Erbil, et donc c'est ma vie. Mais généralement, précisément, c'est la liberté que je cherche toujours, et je pourrais trouver ça en France, précisément, et en Europe, généralement.
Ouais. Et ça, c'est lié à ton statut, au fait que tu fais partie d'une minorité et que c'est compliqué, malgré le multiculturalisme de l'Irak, c'est compliqué d'être une minorité en Irak aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est ça, car on a perdu beaucoup de choses. On a perdu notre identité, on a perdu... notre région, notre nos maisons, les minorités généralement sont maltraitées en Irak, et il y a des politiciens de minorités, mais la plupart comme les autres, ça veut dire il y a quelqu'un, par exemple, il y a des politiciens de minorités qui est avec les chiites, avec les
alliances, des alliances par la corruption.
Donc,
c'est
la même idée.
Ouais, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très, très intéressant. Comme d'habitude, moi, je suis frustrée parce que ça dure qu'une demi-heure et encore je mords un peu.
Ouais, c'est ça.
Donc, je laisse la parole.
Surtout la musique. c'était Mounir Bachir, un musicien de oud, ce magnifique instrument. Milad, vous jouez du oud ?
Oud, non, malheureusement, non.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de oud, hein, oui. En Irak. C'est vraiment un instrument typique.
Nasser Chem est très
oui,
connu aussi.
Oui, c'est vrai qu'il est très connu. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je serais incapable de le reprononcer, mais je vois très bien qui c'est. Alors, on a un petit son dans la boîte, parce que c'est le moment de la carte postale sonore.
Il y a du vent.
Ouais. Alors, il y a du vent. Mais c'est pas la tempête qui approche,
non,
mais...
Non. Il y a du vent, il y a de l'eau.
Ouais. Bah, on dirait qu'il pleut en arrière fond.
Ouais, moi, j'ai l'impression que j'entends de l'eau qui coule comme... Ouais, c'est
ouais.
Ça. Un peu une cascade.
Ouais.
Ah, il pleut là. Ah oui, il pleut. Non ?
Non ? Bien, non. C'est une carte postale locale.
C'est local.
C'est local, donc c'est
là. On est à Chaumont-sur-Loire.
Ouais. Ah, en effet, on ne pouvait pas être plus local.
Ouais, en 2012.
Ouais.
En 2012, il a fait moins 20 degrés pendant, je crois, bien une semaine. Ouais. Quelque chose comme ça. Et la Loire avait commencé à geler. Et donc là, on est en bord de Loire et on écoute les blocs de glace, les icebergs. Qui descendent la Loire.
D'accord. Incroyable. Donc ce qu'on croit être de l'eau, en fait, c'est les blocs de glace qui descendent.
Exactement.
Et alors c'est la première fois
alors que moi je le voyais certainement, mais...
Que toi tu le voyais,
alors,
mais...
Moi je peux témoigner parce que j'ai grandi sur les bords de Loire, en Loire-Atlantique. Ah, oui. Et en 1986, je m'en souviens parce que c'était hyper marquant, la Loire avait gelé. Donc il y avait des... Alors pas complètement, il y avait des énormes blocs de glace. Et l'armée, je me souviens très bien, on était venus avec mes parents parce que j'habitais vraiment juste à côté. On était venus voir l'armée parce qu'il était question de faire sauter les blocs de glace pour en fait que les piles du pont qui nous permettaient de passer au nord de la Loire ne soient pas prises dans les glaces. Donc je suppose que c'était dans le coin pareil, je sais pas. Moi, 1986, à 15 km de Nantes, la Loire prise dans les glaces. Ouais.
Ça doit être un spectacle assez impressionnant.
Ah ouais, c'est un souvenir de gamine.
Sur ce beau fleuve sauvage. Ouais, c'est
très, très impressionnant, ouais. Ouais.
Et alors, Jérémy, tu étais là à ce moment-là.
Exactement.
Avec ton téléphone.
Avec mon téléphone.
Mais non, pas du tout, avec un Agra.
Ah, pardon.
Hélas, non. Sinon, la prise de son eût été meilleure.
Super. Merci, Jérémy.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, pour s'acheminer vers la fin de l'émission, on va parler musique. Voilà. C'est l'heure de la chronique musicale avec un chef d'orchestre pas comme les autres, hein, qui s'appelle Karim Wasfi, qui est né en 1972 au Caire. Il est violoncelliste et compositeur irako-égyptien. Et depuis 2007, il dirige l'Orchestre symphonique national d'Irak à Bagdad. On le surnomme le Rostropovitch irakien, bien évidemment en référence au maestro russe qui joua un extrait des suites de Bach au pied du mur de Berlin le jour de sa chute historique, le 11 novembre 1989. Karim Wasfi joue sur les lieux des attentats ou sur la ligne de front. Je le cite, « C'est pour moi un engagement social pour construire la paix, diffuser l'espoir et lutter contre les racines du terrorisme. Il faut être proactif pour combler le fossé créé par des années d'instabilité en Irak et reconstruire des ponts entre les gens. » Thank you. Karim Wasfi vit entre Bagdad et les États-Unis avec sa fondation Peace Through Art et le soutien de l'Agence américaine pour le développement international. Karim Wasfi a réuni un orchestre composé de musiciens professionnels de Bagdad, de professeurs et d'étudiants en musique de l'université de Mossoul pour deux concerts en 2018, avec l'espoir de redonner à la ville un orchestre symphonique. Les initiatives culturelles ne manquent pas dans la ville qui avait vu progressivement disparaître cinéma, théâtre et autres lieux culturels depuis les années 1990, déjà et plus encore depuis la montée en puissance en Irak d'Al-Qaïda en 2004. Ce mois de janvier, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, a vu jouer Karim Wasfi aux côtés des réfugiés syriennes et irakiennes après les avoir formés pendant plusieurs mois aux percussions. Ces femmes déracinées, chassées par l'organisation État islamique, vivent dans des camps sans aucune perspective de retour. Pour Karim Wasfi, connu pour jouer dans les rues des villes irakiennes juste après les attentats, il s'agit avant tout de délivrer un message de tolérance. Je le cite, « Ce n'est pas qu'une histoire de réfugiés qui font de la musique, c'est une façon de dire une personne qui joue, ne serait-ce qu'une seule note, devient aussi importante qu'un dirigeant ou qu'un général de l'armée pour maintenir la paix et améliorer les choses. » Alors je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement à écouter l'émission Musicus Politicus, diffusée en 2016 sur France Musique, où vous trouverez des liens vers quelques vidéos où l'on voit Karim Wasfi jouant du violoncelle, assis sur une chaise en plastique, au milieu des ruines et des gravats. Vous connaissiez, Milad, vous avez entendu parler de ce chef d'orchestre, Karim Wasfi?
Oui.
Oui.
Oui. Oui. Mais je le connais pas beaucoup, un petit peu.
Ouais. Oui, apparemment, quand il venait, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais quand il venait juste après un attentat, il y a eu un hôpital qui a explosé. Il est venu quasiment juste après jouer. C'est bouleversant. C'est une force de caractère assez impressionnante. Et ce qui est bouleversant aussi, c'est de voir sur quelques vidéos les gens qui l'écoutent et qui ont subi de plein fouet aussi une attaque et être là. Alors, tantôt dubitatif, tantôt émerveillé en même temps. Et puis, voilà, ça redonne de l'espoir, quoi.
C'est rassurant, oui. À l'heure où la culture en France a perdu toute son importance, c'est bien d'entendre
ce genre
de choses.
Ouais. Donc, allez voir les vidéos, c'est vraiment intéressant. Ben, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. Milad, merci beaucoup d'être venu à Studio Zef, nous parler de vous, de votre pays. Et puis vous revenez quand vous voulez, bien sûr.
Je vous remercie.
Alice, à bientôt.
À bientôt.
On se voit de toute façon le mois prochain. Normalement, on se donne rendez-vous le mois prochain. C'est un peu régulier quand
tout
même.
Tout à fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais.
Jérémy, merci. Et puis à très bientôt à la radio, chers auditeurs et auditrices.